Rabbi Bronciel, bonjour. Chères auditrices, chers auditeurs, une nouvelle émission de Demain les énergies. Au micro, c'est bien sûr Paolo Davi et à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo, bonjour à toutes et à tous.
Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à une source d'énergie qui est très connue, peut-être mal connue d'ailleurs, et qui jouera un rôle très important dans la phase des transitions énergétiques. Il s'agit bien sûr du gaz naturel, qui est aussi appelé méthane. Mais avant de parler de ce sujet, comme d'habitude, nous avons un sujet dans la rubrique Poids de neuf. Ce sujet concerne l'Europe. En fait, il y a eu une bataille très intense, une bataille politique très intense, économique, juridique et financière, qui a été menée à Bruxelles depuis 2 ans pour accorder les labels durables au nucléaire et au gaz naturel.
Oui, en effet, Paolo, la nouvelle norme européenne a franchi une nouvelle étape le 2 février, en fait. La Commission européenne n'a pas cédé aux pressions des pays adversaires du nucléaire ou du gaz, ainsi d'ailleurs qu'à pas mal d'ONG, et a maintenu avec des modifications mineures son projet de texte qui était déjà public depuis le 31 décembre dernier, quelques minutes avant minuit, hein, c'était la date limite. Alors ce texte reconnaît sous certaines conditions la contribution de ces deux sources d'énergie à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, hein, qui est l'objectif majeur. Les commissaires européens ont approuvé une liste de critères permettant de classer comme « durable » entre guillemets les investissements dans des centrales nucléaires ou dans des centrales à gaz pour la production directe d'électricité. Alors c'est un avantage financier qui était jusqu'ici réservé aux seules énergies renouvelables. Donc en clair, maintenant, les banques européennes sont autorisés à financer des projets nucléaires ou de gaz pour l'électricité.
Oui, Marc. D'habitude, la Commission statue par consensus et bien cette fois-ci, un vote a été nécessaire.
Oui, Paolo, la Commission n'a pourtant cessé de répéter que le principe de ce label n'est pas de contraindre les États membres à opter pour telle option énergétique. Hein. Ce n'est pas le droit de l'Europe de faire ça, mais de leur donner les possibilités. Parce que les États européens sont souverains en matière de choix stratégiques pour la transition énergétique. Mais la Commission veut inciter les investisseurs privés à financer avec un seul objectif, réduire, comme on le disait tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre. Donc la taxonomie n'est pas un outil de politique énergétique, c'est un acte en fait de politique financière. Ce qui a d'ailleurs très bien expliqué la commissaire irlandaise à la finance, Meredith McGuinness. Nous avons besoin d'agir urgemment avec les outils en notre possession pour parvenir à la neutralité carbone. Certes, toutes les solutions ne sont pas parfaites.
Et c'est ça qui Eh bien, Marc, personnellement, j'ai quand même des problèmes à comprendre pourquoi les États européens sont souverains en matière de stratégie et de transition énergétique. Il est clair que les problèmes des émissions de gaz à effet de serre et des changements climatiques ne sont pas nationaux, sont au moins européens et voire mondiaux. Mais bon, c'est comme ça, chaque État avait gardé ses spécificités. Mais en plus, Marc, pour tous ces projets, il y a, pour la transition énergétique, il y a un volume d'argent qui est très conséquent. On parle de 350 milliards d'euros par an. Et donc, les finances publiques des États ne peuvent pas toutes seules y parvenir. Et donc, la nécessité d'attirer des investisseurs et de gagner leur confiance. Aujourd'hui, nous vous parlerons donc du gaz naturel. On vous en a déjà parlé. La gaz naturel, c'est le méthane, et la formule chimique, c'est 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. On l'écrit en CH4. En effet, c'est un sujet à la une ces jours-ci. Pourquoi? Et parce qu'il y a une tension sur le gazoduc russe vers l'Allemagne, Nord Stream 2, sur la mer Baltique, les relations et les connexions avec la politique de Poutine, y compris les problèmes de l'Ukraine, et bien sûr, les prix du gaz qui ont flambé un peu partout dans le monde entier, beaucoup moins en France, évidemment, parce qu'il y a eu une régulation qui est intervenue. Mais, Marc, le gaz naturel est une source primaire d'énergie très importante.
Ah oui, Paolo, le gaz naturel, aujourd'hui, c'est 25% de la consommation énergétique mondiale. Alors, en 2020, c'était plutôt 23-24 dans les années antérieures. Donc, la tendance est clairement à l'augmentation.
Et Marc, il faut rappeler les avantages du gaz naturel comme source d'énergie primaire.
Tout à fait, Paolo. Le gaz naturel est une bonne source d'énergie pour la phase de transition énergétique. Il faut se souvenir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos émissions, que pour produire un kilowatt d'énergie, le charbon émet 2,3 fois plus de CO2 que le gaz. Et le pétrole en émet aussi près de deux fois plus. Donc il est très important de souligner que le gaz n'émet pratiquement pas de particules fines, ni de SOX, ni de NOX, les oxydes nitreux, contrairement au charbon et au pétrole.
Oui, je suis tout à fait d'accord, Marc. Et nous verrons plus tard que la combustion du gaz peut devenir assez respectueuse de l'environnement si on l'associe à un procédé de capture et enfouissement du CO2. C'est la technique qui s'appelle CCS, Carbon Capture and Storage, et dont nous vous avons parlé en début d'année. Nous savons, Marc, que le gaz naturel peut être utilisé dans différents domaines. Bien sûr, pour la production d'électricité, mais aussi dans l'industrie du ciment, dans les aciéries, et il est aussi utilisé dans nos maisons pour le chauffage et la cuisine. Quels sont les autres domaines d'utilisation, Marc, du gaz naturel?
Oui, il peut être aussi utilisé finalement pour le secteur des transports, hein, bus et même voitures particulières, de plus en plus en France, mais c'est surtout des domaines où c'est très utilisé, c'est en Italie, ou en Allemagne, ou en Argentine.
Ouais. En effet, Marc, les moteurs thermiques, un moteur thermique à essence, donc qui fonctionne avec ce qu'on appelle un cycle 8, peut utiliser indifféremment l'essence et le gaz. Bien sûr, il faut installer dans la voiture ce qu'on appelle un petit convertisseur, dont le coût relativement est limité, mais ça permet à la voiture de passer de l'essence au gaz indifféremment.
Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi, Paolo, l'utilisation courante du gaz naturel pour produire l'hydrogène, hein. C'est 95% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui avec du méthane. Mais malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, le CO2 produit par cette industrie n'est pas capturé ni enfoui aujourd'hui. Mais on peut penser quand même que dans un futur proche, ce sera le cas. Hein. On avait parlé d'hydrogène bleu d'ailleurs pour cette manière de
faire. Oui, on en a déjà parlé. Et bon Marc, nous avons vu que effectivement le gaz naturel a pas mal de points positifs. Il y a évidemment un certain nombre d'inconvénients. Je citerai parmi les inconvénients que la combustion émet sans doute du CO2, certes en faible quantité, mais il émet du CO2. L'approvisionnement et la fourniture du gaz naturel posent des problèmes de dépendance des régions géopolitiques sensibles, comme la Russie et le Moyen-Orient. Même si la diversification des régions d'approvisionnement, grâce au transport par bateau, par exemple, dans le cas du gaz naturel liquéfié, peut permettre de pallier en partie à ce problème. Mais voyons, Marc, quelles sont les régions du monde pour l'approvisionnement du gaz naturel?
Alors, le gaz naturel est présent dans plusieurs grandes régions du monde, géographiquement. Disons, l'essentiel des réserves sont concentrées quand même dans deux régions. Le Moyen-Orient, il concentre à lui seul 40% des réserves de gaz prouvé, soit environ 75 milliers de milliards de mètres cubes, et la Russie qui dépose 37 milliers de milliards de mètres cubes, soit 20% à peu près des réserves mondiales. Donc tu vois, ça fait deux régions qui font 60%. Alors rappelons qu'un mètre cube de gaz, c'est 10 kWh d'énergie, c'est considérable. Selon le rapport Statistical Review of World Energy de BP en 2021, les réserves de gaz naturel dites prouvées dans le monde se chiffraient à 188 milliers de milliards de mètres cubes à la fin de l'année 2020.
Et en effet, au Moyen-Orient, c'est l'Iran qui est en tête de ces classements. Le pays dispose de 32 milliers de milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit à peu près 17% des réserves mondiales. Et en deuxième place, on retrouve le Qatar avec 24, presque 25 milliers de milliards, ce qui représente 13% des réserves de gaz du monde. Et à la troisième place, on retrouve l'Arabie Saoudite qui a quand même 6 000 milliards de mètres cubes.
Ah oui, Paolo, il y a aussi les États-Unis qui ont des réserves relativement importantes, récentes, grâce à l'exploitation des gaz de schiste. Les réserves prouvées des USA, c'est environ 12 600 milliards de mètres cubes, ce qui est la place à la cinquième place. Alors, ils sont aussi suivis de la Chine, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, tu l'as dit, les Émirats Arabes Unis, le Nigeria. Donc, pas mal de pays, c'est assez bien distribué quand même.
Oui, oui. Le total des réserves de gaz naturel pour les 10 premiers pays du monde est de plus 150 000 milliards de mètres cubes. Donc, gigantesque. Et d'après l'agence internationale, mais ça c'est un sujet un peu contesté, compte tenu des réserves identifiées dans le monde, au rythme actuel de consommation planétaire, les réserves auraient une durée de vie de 200 ans. Mais ça paraît un peu optimiste. D'autres sources estiment que les réserves actuelles de gaz naturel devraient permettre d'assurer environ 50 années de production au rythme actuel, qui est de l'ordre de 4 000 milliards de mètres cubes par an. Et nous pensons, Marc, qu'en effet, c'est probablement ça le chiffre le plus probable. 50 ans de réserve devant nous, ça paraît le plus raisonnable.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. La durée globale dépend aussi d'autres facteurs à consommer, bien sûr, pour la consommation, parce que si elle monte, ça fait moins d'années de réserve. Ouais. Alors, de nombreux pays sont engagés dans un processus de transition énergétique. Donc je pense que le mix est amené à évoluer vers plus de gaz naturel. Et donc c'est une des rares énergies historiques peut-être qui sera amenée à cohabiter assez longtemps avec les énergies renouvelables.
Ouais. Et en plus, Marc, les réserves mondiales, n'ont globalement pas vraiment cessé de croître, alors même que la consommation a augmenté en parallèle. En 40 ans, on peut dire que les réserves mondiales de gaz naturel ont pratiquement été multipliées par 3.
Oui, il y a effectivement eu beaucoup de découvertes dans les années, il y a 30 ou 40 ans. On observe quand même un très sérieux ralentissement depuis 2010. Bon, je pense que c'est lié à la chute importante des investissements dans le gaz et le pétrole. Mais je crois aussi que c'est lié un peu à la raréfaction des découvertes, au moins les découvertes conventionnelles. Nous ne trouvons malheureusement plus aujourd'hui annuellement ce que nous consommons.
Mais bon, on peut dire que Marc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de risque de manquer de gaz naturel dans les 20 ou 30 ou 40 ans à venir.
Oui, Paolo, nous avons vu qu'il y a à peu près 50 ans de réserves devant nous, mais ces réserves ne sont pas mises en production aujourd'hui. Alors du fait de la politique actuelle des grandes banques occidentales qui préfèrent investir dans une énergie nouvelle, qui sont plus rentables économiquement, qui posent moins de critiques écologiquement. Du coup, les grands projets gaziers restent dans les étagères ou dans les cartons, comme on dit. Et les compagnies gazières doivent chercher des financements, finalement, en Russie et en Chine, ce qui accroît nos dépendances. Donc, il est effectivement raisonnable que les problèmes que nous voyons à court terme, on a vu par l'emballement des prix, pourraient perdurer, même s'il n'y a pas de problème physique de réserve, pour le moyen terme au moins. Alors, j'espère que la nouvelle taxonomie européenne dont on a parlé entraînera les banques occidentales à changer de politique et à investir plus dans le gaz que ce qu'elles font aujourd'hui.
Ouais, très bien Marc. Effectivement, comme nous l'avons dit, les problèmes majeurs de l'utilisation du gaz naturel est la dépendance de l'Europe et de la France des importations. Et par conséquent, il y a pas mal d'aspects stratégiques et géopolitiques qui rentrent en jeu et qu'il faut prendre bien sûr en compte. Mais regardons, Marc, dans les détails, d'où viennent les importations de gaz naturel en France. Il y a pas mal de gens qui pensent que la France importe beaucoup de gaz de la Russie. Or, la réalité n'est pas vraiment celle-là.
Tout à fait, Paolo. Il est clair que la quasi-totalité de la demande française de gaz naturel est aujourd'hui complètement satisfaite par 100% d'importation. Ça correspond à peu près à 45 milliards de mètres cubes de consommation par an, la France. Et contrairement à une idée assez répandue, comme tu le dis, le premier fournisseur de la France aujourd'hui, c'est la Norvège et pas la Russie.
Ouais. Donc Marc, très bien, on fera une petite pause musicale maintenant. peux-tu nous dire quelles sont les importations françaises, de quels pays elles proviennent?
Oui, alors il y a 5 fournisseurs majeurs, je dirais la Norvège, donc c'est 36% du total des entrées de gaz brut en France en 2020, hein, il n'y a pas longtemps. La Russie, 17%, l'Algérie, 8%, les Pays-Bas, 8%, enfin, grosse diminution, et le Nigeria, 7%. Alors il reste 24% dans les catégories autres, hein, dans les statistiques gouvernementales. Dans cette catégorie, on retrouve principalement les États-Unis, ça devient aussi important, c'est 5% aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont doubler les Pays-Bas bientôt, auxquels nous achetons en fait du gaz de schiste. Hein. Et puis il y a des achats spot sur le marché nord-ouest de l'Europe, sur lequel le lieu de production n'est pas très connu, parce que c'est des échanges de pays à pays.
Oui, oui, donc effectivement Marc, il faut bien que nos auditeurs soient conscients que malgré l'importance de ces 5 fournisseurs dont tu viens de parler, la France a quand même diversifié l'origine de ses importations afin de limiter les conséquences d'aléas techniques ou politiques éventuels. Récemment, par exemple, il y a le problème des tensions russo-ukrainiennes. Et les importations sous forme de gaz liquéfié offrent notamment à la France la possibilité de s'approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs, comme les États-Unis, mais il y a encore d'autres, l'Algérie, etc. En acheminant du gaz jusqu'au terminaux méthanier, indépendamment du réseau existant des gazoducs, et grâce à de nombreux stockages aussi souterrains dont la France dispose dans les bassins parisiens et dans les bassins aquitains. Je crois qu'il y a un volume d'environ 12 milliards de mètres cubes par an stockables dans les sous-sols, hein, Marc, il me semble.
À peu près.
Oui. C'est le seul pays d'Europe, avec l'Italie, qui possède de nombreux stockages souterrains qui permettent un tampon et qui permettent d'atténuer aussi l'impact des prix lors des hivers, par exemple.
Tout à fait, oui. C'est un point très important pour la France. Ça permet d'avoir un gaz un peu moins cher qu'ailleurs. Précisons quand même que la Russie dispose d'importantes réserves prouvées de gaz naturel. Hein. On avait dit à peu près 20% à la fin du 2020. Et donc reste le principal fournisseur du gaz de l'Union européenne, moins extérieur. Je ne sais pas s'il faut compter la Norvège dedans. En 2019, ce pays a compté pour près de 41% des importations gazières de l'UE, contre seulement 16% à la Norvège. Hein. C'est quand même énorme la différence. Et c'est particulièrement incontournable pour l'Allemagne et de nombreux pays d'Europe de l'Est, encore très dépendants du gaz russe. Hein. On a parlé de l'Ukraine, mais on peut parler aussi de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, des Pays-Baltes, et j'en passe sûrement la Roumanie.
Bon Marc, très bien. Venons maintenant à l'histoire des prix, qui est un sujet très chaud actuellement. Et rappelons que le prix du gaz sur le marché européen est monté à 180 euros par mégawatt-heure, parce qu'en fait, on mesure le prix du gaz en kilowatt, en mégawatt. Et en décembre, donc, dernier, le prix a été multiplié par 10 par rapport à 2020, lorsqu'il était à peu près 20 euros par mégawatt-heure, oui. Donc aujourd'hui, les prix restent à un niveau relativement élevé, autour de 80 euros par mégawattheure. Mais Marc, comment il est établi ce prix du gaz en France?
Alors le prix du gaz en France et partout dans le monde d'ailleurs est schématiquement composé de trois grands postes de coûts. Hein. D'abord les coûts de fourniture, d'approvisionnement en gaz brut, il faut l'acheter quelque part. Ensuite les coûts de transport, de distribution, de stockage aussi en France, on parlait du stockage. Et puis enfin des taxes, parce que tous les gouvernements mettent des taxes sur le gaz comme sur le pétrole. Il existe deux grandes typologies de tarifs en France, là par contre. On appelle les tarifs réglementés, qui disparaîtront d'ailleurs théoriquement, si la loi ne change pas, à mi-2023. Et puis des offres sur le marché, un marché spot, libre, qui fonctionne du prix du gaz brut. Alors, plus de 3 millions de ménages, je crois, sur les 10 ou 11 millions de sites résidentiels, étaient soumis aux tarifs réglementés à fin 2021. Voilà un petit peu le rapport entre les deux.
Ouais. Et donc, face à une nouvelle hausse du tarif réglementé en octobre 2021, le gouvernement a annoncé un gel. Et ce gel, d'ailleurs, il s'applique jusqu'en avril 2022. Et les hausses donc, qui auraient dû être appliquées durant cette période seront répercutées ultérieurement. D'ailleurs, je crois qu'en janvier, le prix du gaz a légèrement baissé. Mais Marc, comment varient les prix de ces gaz naturels?
Alors, ça varie selon le type de client, selon l'importance de la consommation de ces derniers. Depuis l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les consommateurs particuliers ont le choix, comme pour l'électricité, comme on disait, entre deux typologies de tarifs. Les tarifs réglementés de vente proposés, donc on a dit, hein, ils disparaîtront au 30 juin 2023. C'est uniquement possible par les fournisseurs historiques, donc Engie, hein, qui est l'ancien GDF, et les entreprises locales de distribution, dites des ELD, comme Gaz de Strasbourg, Gaz de Bordeaux, des petites compagnies qui distribuent depuis longtemps le gaz localement. Et les tarifs de marché, alors, proposés par les fournisseurs historiques aussi, mais par les autres fournisseurs dits alternatifs. Alors, Alterna, Antargaz, Direct Energy maintenant, Total Energy, INI aussi, les Italiens qui ont une bonne part de marché en France.
Et Marc, il faut dire que les tarifs réglementés des ventes sont fixés par les ministères en charge de l'énergie et de l'économie, après avis de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, tandis que les tarifs du marché sont librement négociés entre les fournisseurs et leurs clients. Ils sont évalués tous les mois, dans le cas d'Engie, par exemple, avec une formule tarifaire prévue par arrêté le 28 juin 2021, et trimestriellement pour les ELD, donc pour les sociétés dont tu parlais tout à l'heure, avec des formules tarifaires respectives. Nous avons vu que les prix du gaz peuvent être décomposés en plusieurs composantes communes, c'est-à-dire les coûts d'approvisionnement, commercialisation, incluant la marge des fournisseurs, les coûts de transport et de distribution sur les réseaux français, les coûts de stockage et les taxes et contributions. Essayons de détailler chacun de ces composants, Marc, et en commençant par les coûts d'approvisionnement.
Ah oui, Paolo, à la fin 2020, les coûts d'approvisionnement en gaz naturel comptaient en moyenne pour un tiers du prix final facturé au consommateur. Je parle d'un cas d'un particulier ayant souscrit un contrat au tarif réglementé auprès d'Engie, profil qui sera retenu pour les différents pourcentages de coûts qu'on va évoquer maintenant. Ils intègrent donc tous les coûts amont, les coûts d'exploration du gaz, les coûts de développement, les coûts d'extraction, de transport jusqu'au terminal de départ de réseau français, ainsi que les marges du producteur et de ses transporteurs internationaux.
Ouais. Mais comment est acheté ce gaz dans la pratique, Marc?
Le gaz naturel peut être acheté par le fournisseur de gaz de gré à gré dans le cadre en général de contrats long terme, 15 à 20 ans. Hein. Dans la plupart des cas, le fournisseur s'engage à acheter à un producteur un certain volume de gaz, on dit pour qu'il en prenne selon une clause qu'on appelle take or pay, je prends ou je paye. Il est tenu de payer une quantité minimale de gaz, qu'il en prenne la livraison ou non, hein, qu'il en ait besoin ou non, ça dépend un peu du climat, bien sûr. Ça permet aux vendeurs d'assurer la rentabilité de ses investissements à long terme. En retour, le vendeur garantit, ça c'est très important, la mise à disposition de ce gaz, ce qui permet à l'acheteur d'assurer la sécurité de son approvisionnement et d'avoir une visibilité d'approvisionnement pendant longtemps. Et sur son coût aussi.
Oui, et c'est là aussi qui joue la possibilité de stockage souterrain de la France, parce qu'évidemment, ça peut permettre...
Tout à fait. On achète le gaz l'été pour le revendre l'hiver.
Voilà. Très intéressant. Et il y a évidemment d'autres types d'achats, Marc.
Oui, alors il y a d'autres méthodes. Hein, sur le biais des marchés, on les appelle intermédiaires. En fait, c'est des courtiers ou des marchés organisés, comme le IIX, où s'échangent différents types de contrats spot, journalier, par exemple, infrajournalier, DES, dans le cadre d'un contrat négocié la veille pour le lendemain, ou à terme, on dit future en anglais, contrat avec une échéance plus éloignée, par exemple le mois, quelquefois le trimestre. Pour les fournisseurs, en fait, ces marchés sont un moyen d'ajuster à la marge leur approvisionnement long terme. Ils ont déjà derrière eux afin de satisfaire les besoins ponctuels de leurs clients.
Très bien. Cela me semble essentiel, Marc, pour comprendre le mécanisme de définition des prix du gaz naturel. Et notons que qu'en France, l'essentiel de l'approvisionnement de gaz est assuré dans un cadre de contrats à moyen et long terme, contrats auxquels les opérateurs historiques ont principalement recours. Les coûts d'approvisionnement varient en fonction du prix du gaz sur les marchés, aux Pays-Bas, en PEG, en France, et ces derniers étant sensibles aux fluctuations de l'offre, par exemple l'excédent dû à des livraisons massives sous forme de gaz naturel liquéfié, et de la demande liée aux activités économiques et aux conditions climatiques. Et donc, Marc, en plus des coûts d'approvisionnement, il y a aussi d'autres types de coûts, par exemple le coût de transport.
Tout à fait, Paolo. Coût d'approvisionnement initiaux, bien sûr, le fournisseur ajoute les frais de transport, les frais commerciaux, l'accueil client, le traitement des demandes, des marges, ainsi que les coûts d'ailleurs des certificats d'énergie, d'économie d'énergie, les CIE.
Donc, et pour les coûts de transport et de distribution sur le réseau français,
C'est à peu près autant que l'approvisionnement finalement, et on est aussi à un tiers pour les coûts de transport et de distribution sur le réseau français, facturés finalement aux consommateurs. Alors ces coûts intègrent les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel en France, dont les fournisseurs s'acquittent auprès des gestionnaires de réseaux, et qu'ils facturent ensuite à ses clients. Les tarifs d'utilisation de ces réseaux sont de deux ordres. Les tarifs qu'on dit ATRT, accès des tiers au réseau de transport, pour l'accès au réseau de transport, et les tarifs ATRD, accès des tiers au réseau de distribution de gaz naturel, pour l'accès au réseau finaux de distribution.
Très bien, Marc. Il y a encore d'autres coûts qui affectent le prix du gaz, et notamment le coût de stockage.
Tout à fait, oui. Les stockages coûtent environ 4 à 5 % du prix du gaz naturel fabriqué aux consommateurs à la fin 2020. Alors, ils permettent de lisser les coûts sur les variations saisonnières. Et ça, c'est important parce que sinon, on aurait des prix qui varieraient trop sur l'année.
Oui. Et donc, en plus, Marc, parmi les coûts, il y a aussi les taxes et les contributions qui représentent à peu près 29 % du prix du gaz naturel en fin 2020. Que pouvons-nous dire sur ces tarifs,
oui,
Marc?
Eh oui, finalement, le complément, c'est à peu près 30% qui est les taxes. Alors, les tarifs réglementés sont contrôlés par les pouvoirs publics, étaient dans le passé classés en deux catégories selon le volume de consommation des clients. Les tarifs à souscription, aujourd'hui supprimés, concernaient les consommateurs de gaz qui étaient raccordés directement au réseau de transport et les clients raccordés au réseau de distribution qui consommaient plus de 4 gigawattheures par an. C'est les gros consommateurs industriels, professionnels. Puis les tarifs de distribution publique, qui n'existent plus que pour les clients résidentiels, les syndicats de copropriété, les propriétaires uniques d'immeubles à usage d'habitation, pour la consommation annuelle inférieure à 150 mégawattheures. Ceux-ci disparaîtront aussi fin juin 2023.
Oui, juste quelques chiffres clés, Marc, pour les gaz naturels. À la fin de juin 2021, il y avait à peu près 11 millions de sites de consommation de gaz naturel en France, donc 94% des sites résidentiels, c'est-à-dire des particuliers, et qui ne comptent que pour 26% de la consommation totale de gaz en France quand même. La consommation annuelle de gaz de la France s'élève à 461 TWh, donc à peu près, comme tu as dit tout à l'heure, 46 milliards de mètres cubes par an. Pour la hausse des prix, Marc, qu'est-ce qu'on peut encore dire?
Le tarif réglementé d'Engie pour la vente de gaz naturel a augmenté en moyenne de près de 13% au 1er octobre 2021. C'est 14% hors taxe. Cette envolée, elle est liée à la hausse des prix observés sur le marché international, sur le marché mondial. Qui va de pair avec le fort rebond de l'économie mondiale. C'est ce que nous indique la CRE, mais bon, ça a l'air de continuer de monter quand même un peu.
Et bon, Marc, bien sûr, le gouvernement a annoncé un gel des tarifs jusqu'en avril 2022, mais bien sûr, les consommateurs devront rembourser. Toutefois, à partir du printemps 2022, les sommes non perçues par les fournisseurs. Bon, Marc, c'était un sujet, il me semble, très important et intéressant. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et comme vous le savez, chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez réécouter cette émission. Et pour le faire, vous pouvez aller sur le site www.radiograndciel.fr. Et aussi, nous vous invitons à nous écrire si vous voulez bien. À bientôt.
À bientôt à tous et toutes.